Merci à vous. Bien, quand il émerge, le punk est l'expression d'une cassure historique. Il est la manifestation d'une rupture dans la modernité française libérale-libertaire des années 70. De cette cassure, depuis des années, et c'est l'objet d'une partie du colloque ici, de cette cassure, on collecte les traces, documents sonores, archives, témoignages, publications populaires et savantes. Organiser et analyser ces éléments accumulés, sommés de faire sens, produisent une réalité où se croisent et s'entremêlent histoire, sociologie, musicologie, médiologie, journalisme, etc. Le punk est la somme de ces données. Mais c'est aussi une histoire que l'on met en récit. Il y a bien sûr différentes formes de mise en récit. Celle du sociologue n'est pas tout à fait celle du musicologue. Celle de l'historien se distingue évidemment de celle du journaliste. Mais à chaque fois se pose la même question, quelle histoire racontons-nous? À quelle construction procédons-nous? Comment donc l'aventure punk a-t-elle été écrite et comment écrivons-nous cette aventure aujourd'hui? Par quels mots s'est-elle dite par le passé? Quel en fut le récit? Je m'en tiendrai ici à sa mise en écriture littéraire, m'appuyant principalement sur trois livres que vous connaissez certainement. Je vous les montre. Les années blanches de Jean-François Bizot, qui paraît en 1979. L'aventure punk, qui a déjà été montrée tout à l'heure, de Patrick Hudlin, 1978. Et puis, Novo Vision ou les confessions d'un cobaye du siècle, d'Yves Adrien, 1980. Il faudrait évidemment citer beaucoup d'autres ouvrages. Je vais être très rapide, ça va être un survol, mais c'est une indication qui, j'espère, vous donnera envie de lire ces livres. Alors, ces trois livres originels relatent de manière très différente le très difficile avènement du punk français entre 1976 et 1980. Entre manifestes, romans et journal, le récit rend compte de la brisure punk, de ces années blanches, celle de la débâcle, et il faut insister là-dessus, celle de la débâcle de l'utopisme des années 60, celle d'un présent effondré, celle d'une révolution conservatrice en marche. Et on n'a pas assez dit cela, mais la cassure des années 80, c'est bien sûr l'avènement de la gauche au pouvoir en France, mais également dans les pays et dans les sociétés avancées, dans les pays occidentaux, c'est une révolution conservatrice dont vous connaissez certains des ténors. Donc le punk est une fiction. Bien sûr, le punk n'est pas que cela, mais c'est aussi une fiction. On va le voir, les trois livres cités cherchent à l'appréhender, à le définir. Les récits qu'ils construisent veulent traduire le bouillonnement et l'insolence, le débordement d'énergie et l'impuissance qu'il représenta. Par-delà leurs différences, un lexique particulier, une syntaxe tendue des thèmes leur sont communs. Ce que l'on remarque d'emblée, c'est l'impossibilité soudaine d'une narration lisse. Le développement linéaire d'une histoire ouverte, s'acheminant vers sa fin naturelle, que vous connaissez, heureuse ou malheureuse, paraît tout à coup inatteignable. Qu'il s'agisse d'un roman, Bizot, d'un manifeste fourre-tout, Hudlin, ou d'une autofiction fantastique, Adrien, le piétinement, le ressassement ou le morcellement du récit manifeste un air du temps irrespirable. L'horizon s'est obscurci. Réel ou imaginaire, les protagonistes de ces récits, advenant au terme d'une certaine révolte, sont les représentants en réalité d'un rêve effondré. Et je cite ici quelques phrases, quelques mots, c'est l'heure mortuaire du deuil universel. Ces mots, c'est l'heure mortuaire du deuil universel, ce sont des mots écrits par le peintre et poète symboliste belge Jean Delville, mais ce sont des mots qui sont cités par Patrick Hudlin dans son roman impitoyable et magnifique, publié en 1997, « Ce siècle aura ta peau ». Et je vous y renvoie, bien sûr. Inapte ou indifférent au recyclage néolibéral qui s'amorce, les protagonistes de ces trois textes survivent comme ils peuvent en cette heure mortuaire, confrontés qu'ils sont à deux écueils. D'une part, leur marginalisation inoffensive et vaine. D'autre part, l'immédiate récupération marchande de l'ennui, du rien ou du néant qu'ils incarnent. Portés par cette rupture qui est celle de toute une époque, l'écriture fictionnelle, romanesque par exemple, l'écriture fictionnelle punk explore cette heure crépusculaire. Mais de quel deuil parlons-nous ? Quel deuil universel ces protagonistes doivent-ils assumer tout à coup ? Pour répondre à cette question, il faudrait avoir à l'esprit, en toile de fond, le tout premier roman de Jean-François Bizot qui s'intitule « Les déclassés » et qui paraît justement en 1976, et qui nous conduit jusqu'à cette rupture où commence la contre-culture punk. Je vous y renvoie. Mais pour ce qui concerne les livres sélectionnés ici, choisis ici, le personnage qui succède au personnage des déclassés, le personnage donc des années blanches, est celui qui, comme le personnage des déclassés, se présente, et je cite, comme un vieux con de 26 ans, gavé d'utopie. Et comme lui, je cite à nouveau le texte, il ne sait plus où il en est. Je vous lis les premiers mots de la quatrième de couverture qui vous donne juste un petit aperçu. Patrick a 26 ans et il ne sait plus où il en est. Nous sommes en novembre 1976 et les croyances se ramollissent. Celui qui écrit cela, c'est quelqu'un qui vient des années 60 et du début des années 70. Le ramollissement qu'il perçoit, lui, est en réalité un véritable effondrement qui casse les années 70 en deux parties distinctes. Ce ramollissement est en réalité, en effet, une débâcle. Et c'est de cette débâcle des utopies que naît le punk, qui en précipite en réalité la fin. Nous sommes là donc au bout d'une certaine route, ouverte, et ça a été signalé, ouverte par la Beat Generation 20 ans plus tôt. Dans les années blanches, et maintenant abordons ces différents livres, ce que Bizot appelle les mutants de l'après-gauchisme décadent se laissent gagner par la perplexité. Je cite le texte. « Depuis 68, on attendait le printemps. Depuis 74, on n'attend plus le printemps, mais on espère encore l'automne. » Fin de citation. Il n'y aura pas d'automne, pas plus qu'il n'y eut de printemps. C'est en réalité le long hiver punk qui s'impose. Coup de froid, donc, sur les rêves d'hier et sur les lendemains qui chantent. La noirceur de l'époque contraste avec les visions colorées de la génération précédente. Entre un passé exécré et un futur improbable, le présent est perçu par le personnage de ce roman, et je le cite, « comme une sorte d'hibernation qui espère le dégel, mais avec la crainte de la mort. » Une sorte d'hibernation qui espère le dégel, mais avec la crainte de la mort. C'est alors que la trame romanesque s'enrichit de ce mot qui traduit la faillite du présent. Et ce mot apparaît au milieu du texte, le mot « punk ». Le punk, c'est quoi ? S'interroge Patrick. Un truc ? Une mode passagère ? Un trip ? Et là, je cite quelques mots du texte. Non, constate-t-il. Le punk, c'est beaucoup plus que cela. C'est une brisure et un renversement, dont, avec étonnement et sans les comprendre, il n'aperçoit que les signes apparents. Ce qui, d'ailleurs, est le regard porté sur le punk par la plupart des gens. Visage blafard, corps amaigri, cheveux ras éteints, collier de chien, cuir et résille. C'est donc ça le punk, s'étonne-t-il. Et je le cite, une sorte d'oiseau sinistre, pantin de mauvais augure, traînant une dégaine de clown misérable, sorti des films expressionnistes allemands. C'est cet oiseau malade qui ne sait plus voler, qui n'annonce rien d'autre que la vacuité du présent. Quel est le sens de cet enlaidissement des corps ? Quel est le sens de ce mépris de la vie, de la frénésie violente de ce rock qualifié dans le roman d'apocalyptique ? Voilà, c'est très intéressant parce que c'est l'une des toutes premières mises en écriture romanesque de ce qui advient dans ce présent des années 70. Deux mots empruntés à la langue anglaise résument la singularité de cette séquence que Jean-François Bizot met en récit. Déjà usé à l'époque, on est en 1979 pour ce livre, déjà usé par leur marchandisation inconsidérée, ces deux mots conservent sous la plume de Bizot leur force de sidération. Ces deux mots, je vous les donne bien sûr, vous les connaissez, « no future », eh bien la langue française ne connaît pas d'équivalent aussi percutant. Ces deux mots viennent briser le réel et le récit en deux parties distinctes. Le punk qui devient de ce fait le miroir des années 70. Je le cite. « Il se passe quelque chose dans cet anéantissement des valeurs. » C'est le personnage qui parle ici. Et c'est une chose qu'il ne comprend pas. Que se passe-t-il ? Il constate quelque chose qui advient, il ne le comprend pas. Et à la fin du texte, c'est très intéressant, dans les toutes dernières pages, nous lisons ceci. Un jeune punk qui s'adresse à ce post-68-art désabusé qu'est post-adolescent de 26 ans. Ceux qui disent « no future » ne se tuent pas, Patrick. Ils se révoltent. Mais quel est le sens de cette révolte ? À cette question, le roman ne répond pas. Par contre, C'est cette question qu'aborde le manifeste que je vous montrais à l'instant, le manifeste de Patrick Hudlin, l'aventure punk. Et je vais donc en parler maintenant. Présenté comme un fourre-tout d'instantané en désordre, pris entre 1976 et 1977, l'aventure punk exprime cette révolte avec intransigeance, mais aussi avec incertitude. Et c'est là sans doute, rétrospectivement, en tout cas c'est ce qui m'a apparu en le reprenant, la qualité de cet ouvrage. Le collage d'un article de presse tiré du journal L'Humanité Dimanche, je vous le montre de loin, je n'ai pas, mais ça commence comme ça, si vous voulez. Un article de presse qui a été collé pratiquement en ouverture du livre, après la page de titre, eh bien, sert d'introduction à ce livre. Je me demande ce que cela veut dire et d'où cela vient, s'interroge une lectrice inquiète du journal donc L'Humanité Dimanche, et la réponse de Hudlin est sans détour. Et je le cite, nous sommes à la page 64, pratiquement à la moitié du livre. « Nous sommes les enfants dont la planète n'a pas voulu, rescapés au corps déchiré, nos frères décimés. Horizon, télévision. Univers, information. Nous n'avons survécu que pour nous battre. » Mais cet ouvrage, et c'est en cela qu'il m'intéresse beaucoup, n'est pas seulement un document oscillant entre manifeste et témoignage, c'est aussi un texte qui se voudrait fondateur. Ce fourre-tout supposé, ça n'en est pas un, simulant une spontanéité de fanzine, importe une esthétique punk venue d'Angleterre. Hudlin le sait très bien. Lui, pour qui les références musicales et les héros salués sont anglais. Et il tente, par et dans la construction élaborée qu'il propose, par ce livre, de franciser cette esthétique. Opération difficile mais essentielle, qui se veut un acte de naissance du punk français, je le cite, et c'est un élément très important de ce livre. Coincé entre la rue des Lombards et le plateau Beaubourg, infesté par les faf et les snobs sur le retour, désireux de ne pas louper le dernier trip, la scène française a l'air bien mal barrée. Une parodie. Rien d'autre qu'un trip mode. Et pourtant, en effet, et je le cite à nouveau, il y a tous ceux qui se battent ici pour imposer à la France son combat punk. Nos punks locaux, souvent, n'hésitent pas à porter l'Union Jack. La France n'est-elle condamnée qu'à la schizophrénie, à balancer des sous-clashs ? Le punk rock pourrait-il être en France un phénomène de masse, toucher le cœur des kids, comme là-bas c'est Londres, bien sûr ? Pourrait-il être autre chose qu'un produit importé au même titre que le thé Earl Grey, les Shetland Woolworths, les cendriers marqués Piccadilly ? Le punk rock français a comme obstacle principal à imposer son authenticité. Il aura à se battre contre les récupérations des snobs, s'imposer, les lettres sont en majuscules, sur son terrain. Ne pas parler de Knightsbridge, mais de Belleville. Pas des Rastas, mais des Nords africains. Se découvrir son moyen de combat, chanter en français probablement. En creux donc du manifeste, qui nous dit le punk est ceci, le punk est cela, il y a cette inquiétude amplifiée, surexposée par les artifices typographiques, je vous demande de les imaginer, ce sont ces mots qui sont écrits en lettres capitales et qui détachent de la linéarité du texte les fragments d'une rhétorique offensive martelant son message. Imposer à la France son combat, s'imposer sur son terrain, se découvrir son moyen de combat. Comment en effet éviter, et c'est là l'une des exigences de ce livre, comment éviter la parodie, le simulacre, la contrefaçon ? Car le livre d'Hudlin contient en ses pages une affirmation surprenante et peu entendue. En 1977, le punk français n'existe pas. Il n'est pas encore né. Déchiré entre là-bas, Londres, sa scène native, et ici, Paris, sa copie maladroite, il s'écrit au futur. Pourra-t-il être autre chose que, c'est-à-dire autre chose que ce qu'il est actuellement, une duplication inavouée. Quand le punk français, enfin libéré de la tutelle anglaise, parlera sa propre langue, la langue française, et se reconnaîtra tel, ce sera alors notre Hudlin, la réalité quotidienne de la France qu'il prendra en charge, mettra en mots et en musique, celle de Belleville comme celle des banlieues, celle des déshérités comme celle des paumés. Je le cite, « N'avons-nous pas notre quotidien, nos chômeurs, nos exilés, international heroes ?» Je passe, je vous renvoie à la fin de ce livre, si vous voulez. Mais en tout cas, je passe au tout dernier livre, donc « Nouveau Vision », qui nous renvoie donc à cette inquiétude de Patrick Hudlin et qui vient lui donner une résolution tout à fait particulière. Alors, le livre de Philippe Adrien, c'est devenu une sorte de livre culte que vous avez certainement lu. Donc, c'est dans cette veine, en tout cas, que se situe « Nouveau Vision » d'Adrien, qui est publié en 1980. Dans ce journal fantastique, ce dernier y est un personnage créé par une main invisible, le robot Orphan, qui est à la fois son double et sa figure du commandeur. Cette autofiction particulière, qui couvre l'année 1979, commence à Paris, où Adrien dit atteindre les limites de l'ennui, pour se poursuivre à New York et à Londres. Hôtels, boîtes, clubs, rencontres des figures majeures de la scène musicale new-yorkaise puis londonienne rythment ce journal qui entrelace souvenirs, bribes de conversation, fragments de chansons, coupures de presse et divagations imaginaires. Le punk y est évoqué simplement et très simplement en toile de fond, comme, je cite, « une mode déclinante » à laquelle succède, je cite encore le texte, « une génération TV ». Mouvance non pas née du chômage, mais du carnage médiatique, je cite, « de tout ce que la TV new-yorkaise, nuit et jour, peut offrir d'images violentes ». Du punk, dont la composante française dans ce livre est inexistante, subsistent donc quelques noms, tous anglo-saxons. Entre eux, et ça sera ma conclusion, hein, entre 1976 et 1980, donc il semble que le temps ait très vite passé. Selon Adrien, le punk s'est affadi jusqu'à disparaître des écrans télévisuels qui façonnent notre réel. D'autres révoltes, dont Adrien attend qu'elles trompent l'ennui des années 70 finissantes, viennent le remplacer. Car, et c'est une chose très intéressante, l'obsolescence rapide des révoltes est la loi cynique du marché, même pour ses marges obscures. Et c'est donc un regard rétrospectif désabusé qui est jeté sur ce qui n'est plus considéré ici comme un cri de révolte, mais comme un adjuvant supplémentaire, aléatoire et transitoire au spectacle quotidien. Et donc, je n'ai lu aucun extrait de ces textes, je vous donnerai simplement quelques mots de Philippe Adrien. Et seul, au sommet de la tour de contrôle, un speaker blême distillait ses informations. Neue, new, novo, 250 mg de modernité. Neue, new, novo, 250 g de modernité. Dans un bruissement de neutrons froissés, les modes futurs balayaient l'horizon 80. Je vous remercie.